Et puis, l'été, c'est aussi l'occasion bien d'apprendre des choses qu'on ignore. Et nous avons l'homme tout désigné en la personne de Serge Bradet, qui n'est pas historien de formation, mais qui l'est de passion, par
Oui,
exemple.
qui a toujours aimé l'histoire.
Approchez-vous un petit peu de votre micro, mon ami. Voilà, puis regardez, remontez-le un petit peu et tout ça va très bien se passer. On va tellement mieux vous entendre.
Ah, voilà.
Cette voix magnifique que vous avez, que nous voulons entendre. Alors là, je vous ai mis, mon ami, sur une piste, celle
Absolument.
De la chirurgie des yeux.
Mm-hmm. Et merci, ça a été très intéressant, ce que j'ai découvert. Mais savez-vous,
non.
quand a eu la première opération des yeux?
Mais
Très loin. On parle de 4000 ans. 2000 ans avant Jésus-Christ, donc 4000 ans de notre ère, en Égypte.
Vous me voyez quoi?
Évidemment, et bon, il y a pas de, on ne connaît pas le nom du médecin de l'époque qui aurait fait ça, mais on a retrouvé ça dans des tombeaux, sur un hiéroglyphe qui parlait de ça. Alors évidemment, c'est beaucoup plus récent, on va dans les années 1700 après ça, là où ça s'est... Alors je vous lis un texte que j'ai trouvé, qui est écrit par Vincent Roche et édité par Emmanuel Ducreuset, c'est la rubrique « Histoire de la médecine ». Alors, ça commence par une très belle citation. « Soigner l'œil malade, c'est chercher à vaincre les ténèbres. Un défi permanent qui appelle toujours plus de connaissances, de moyens techniques, de performances. » Ça, c'est à 82 ans, le professeur Yves Pouliquen n'a rien perdu de sa passion pour la spécialité qu'il a exercée toute sa vie, l'ophtalmologie. Ce membre de l'Académie nationale de médecine, mais aussi de l'Académie française, reste émerveillé de cette discipline qui, même si elle ne date pas d'hier, est toujours en évolution. À tel point que notre époque s'est révélée plus riche pour l'ophtalmologie que toutes celles qui l'ont précédée. Cet éminent spécialiste nous compte ainsi quelques-unes, à ses yeux, des plus grandes avancées des 30 dernières années. Dire que la naissance de l'ophtalmologie n'est pas récente révèle de l'euphémisme. Nous avons des traces dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, comme je vous le disais, explique Dr. Pouliquen. Il semblerait en effet que le premier document faisant mention de la discipline, et de la cataracte en particulier, soit le papyrus de Carlsberg, rédigé en hiératique et démotique. Pour Yves Pouliquen, l'ophtalmologie a débuté avec la chirurgie générale. En 1731, Louis XV inaugure l'Académie royale de chirurgie à Paris. Y sont alors pratiquées diverses opérations, dont le traitement des cataractes. Il faudra attendre la fin du 18e siècle pour qu'elle commence à s'émanciper. À la moitié du 19e siècle, l'ophtalmologie devient une discipline indépendante. Mais les prémices sont consacrées uniquement à la cataracte et aux infections les plus évidentes. En 1957, lorsque j'ai embrassé la discipline, Pouliquen qui nous parle, cette dernière était encore très empruntée du siècle précédent. À titre d'exemple, lors d'opérations de décollement de la rétine, nous avions de 50 à 66 % d'échecs, donc autour de 40 % de réussite seulement.
Dans quelles années, ça?
Les années 1957, oui. Lunettes, loupe chirurgicale, exploration de l'œil, tout cela était très rudimentaire. Et une excellente connaissance clinique était nécessaire pour parvenir à un diagnostic précis. De 1970 à 1975, l'ophtalmologie se transforme. C'est à partir des années 1970 que la technologie s'est montrée des plus efficaces, se réjouit le docteur Pouliquen, alors aux premières loges. Et la chirurgie de la cataracte en est sans doute l'une des plus emblématiques.
Ah oui.
Elle consiste à ôter un cristallin opaque et à restituer ainsi la vision. Et si aujourd'hui c'est l'acte le plus répandu, cela n'a toujours pas été le cas. C'est en 1948 que fut réalisée, par l'ophtalmologiste français Jacques Daviel, la première opération de la cataracte par extraction du cristallin, alors que, jusqu'alors, il était abaissé dans l'œil, libérant la pupille et n'étant pas extrait de celui-ci.
Ah,
donc, il restait,
Autrement dit, on le mettait en bas. Oh, ben allez, on va te mettre de côté, on va te mettre dans le placard.
Ouais. Alors, peut-être que ça remontait aussi à un moment donné, je ne sais pas. Il fallut tout le 19e siècle pour que la méthode d'extraction évolue. Et ce n'est qu'en 1975 qu'un Américain, Charles Kellman, invente un procédé moins agressif permettant de substituer à une large incision ou une ouverture de l'œil plus limitée de 2 à 3 mm seulement, mm-hmm. permettant d'agir sur le cristallin. Voilà qui permet d'introduire dans l'œil une sonde à ultrasons. Le cristallin est alors fragmenté puis aspiré. Un implant est ensuite introduit. C'est ce qu'on appelle la phaco... Je recommande. La phaco-mulsification.
Mmh, oui, je comprends qu'on puisse hésiter un peu.
Oui. Puis je l'avais quand même pratiqué. Bien entendu, à l'époque, les incidents liés aux implants et à la manière d'implanter ne sont pas rares, conseille le docteur Pouliquen. Mais depuis, la technique a considérablement évolué. Les implants rigides à l'origine sont désormais la plupart du temps souples, donc pliables et adaptés aux courtes incisions. L'intervention dure aujourd'hui de 20 à 30 minutes, en ambulatoire, sans suture. L'agression opératoire est réduite au minimum, nous restituant une fonction normale à l'œil et de façon quasi immédiate, un petit miracle.
Ah oui, en ce moment, maintenant, c'est fou.
On est donc loin de l'important traumatisme infligé à l'œil autrefois, mm-hmm. de la longue hospitalisation imposée aux patients et de la qualité médiocre de la vision obtenue, il faut mm-hmm. le dire. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'opération est devenue routinière sans être toutefois dépourvue de certains aléas. Chaque année en France, plus de 600 000 cataractes sont ainsi traitées.
Ah oui.
Et beaucoup, hein?
600 000, oui, ça ne me surprend pas. Remarquez ici, c'est assez important aussi comme volume. C'est fou.
Je n'ai pas le
maintenant, ça va tellement vite que c'est quasiment au suivant. Quoi. J'ai
l'impression. Ah, ben absolument, oui, oui.
Non, mais c'est fou.
Oui, oui. La chirurgie de la rétine, d'approximative à remarquable. Une autre affection, le décollement de la rétine, a vu au cours des 30 dernières années son pronostic se transformer. Affection redoutée autrefois, elle trouve désormais des solutions très rassurantes. Relativement rare, ce décollement peut survenir chez quiconque, mais plus généralement parmi les myopes. Mm-hmm. La raison en est la survenue d'une déchirure rétinienne d'origine diverse conduisant à l'accumulation entre les feuillets rétiniens de liquide provoquant ce décollement. Mm-hmm. Des symptômes en signalent l'apparition. Les symptômes, voile soudain, éclair zébrant le champ visuel. Le risque sans intervention rapide est de perdre toute vision de l'œil. La chirurgie réfractive et de la fiction à la réalité, voilà une technique qui, il y a encore quelques années, révèle de la science-fiction. La chirurgie réfractaire, qu'on appelle la chirurgie au laser, permet de corriger les défauts de vision de patients atteints de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme et de presbytie. Elle a été initiée dans les années 70 par un audacieux chirurgien russe, Sviatoslav Fiodorov.
Bravo!
Bravo! Ce dernier a repris une idée vieille d'un siècle qui avait montré qu'en incisant la cornée et ainsi en l'aplatissant, on corrigeait la myopie. Alors, bien entendu, tous ces progrès ne sont que la partie émergée de l'ophtalmologie. Nous pourrions y passer des heures, s'amuse l'intéressable Yves Pouliquen. J'aurais pu vous parler, dit-il, de la prise en charge de la rétinopathie diabétique, combinant l'usage au laser et de la chirurgie, ce qui permet de conserver une vision utile chez les patients condamnés à la cécité. J'aurais pu vous parler de grève de cornée, du vieillissement de la population qui nous a contraints à nous pencher sur de nouvelles pathologies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et bien entendu des progrès des lunettes qui ont gagné en confort et en esthétisme, ou encore les lentilles de contact toujours plus souples et plus fines.
Êtes-vous en train de nous dire qu'on va être obligé de rajouter une semaine encore à MLT pour que vous puissiez revenir nous parler de tout ça?
Ben, j'aimerais ça. Mais écoutez, comptez-vous ajouter une semaine?
Vous savez où c'est, Louise Bien, au fond du couloir à gauche. Oui. Louise Bien, lui, au fond du couloir à gauche. Merci beaucoup. Non, c'est parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé cataracte et tout ça, mais il y a myopie, mais il y a tous ces gens, par exemple, qui sont en train de perdre la vue de façon irrémédiable. Et je trouve qu'en 2017, on est j'allais dire un peu en retard, parce que je me demande si ce n'est pas encore, hein, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais finalement, il y a certaines conditions médicales oculaires qui font que malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé, puis que quand on voit le nombre... Et en plus, et ça, je suis certaine aussi que c'est un sujet que M. Poliquin, qui doit intéresser beaucoup M. Poliquin, c'est le fait que les mômes ont constamment les yeux sur un écran. Remarquez, oui, dit la fille qui a les yeux constamment sur un écran du matin au soir, et qu'à un moment donné, mais enfin... Mettons qu'à mon âge, bon, mais à 10 ans, 12 ans, il me semblerait que les résultats que cela va engendrer, on ne les connaît pas encore complètement, mais on va avoir...
On va voir ça dans 20 ans,
ben, nous, on sera plus là.
Mais, non, c'est ça, oui, mais...
Donc, ils vont s'arranger avec leurs troubles, hein. On en a eu aussi. Merci Serge Bradet.
Plaisir.
Merci.